Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Casser les mythes et les fausses croyances pour réussir en tant que prof de yoga, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que je peux réussir si je ne suis pas assez? Pas assez souple, pas assez légitime, pas assez instagrammable, pas assez connu, pas assez de followers? Mon invitée du jour ne répondait pas à tous ces critères lorsqu'elle est devenue prof de yoga, et pourtant aujourd'hui, je suis sûre qu'elle n'était pas inconnue et elle a réussi son pari de vivre de son activité de yoga en ligne. J'ai le plaisir d'accueillir Laura Harley dans ce nouvel épisode, connue sous le pseudo Yogini Laurita sur Instagram. Généreuse dans ses confidences, Laura va te partager son quotidien de yogipreneur. Comment elle a su transformer le contexte sanitaire actuel en opportunité, comment assumer sa niche et son positionnement a été un vrai game changer dans son business. Les stratégies qu'elle utilise aujourd'hui pour développer son audience, de la collaboration à son dernier challenge. Au-delà de Laura la conteuse, qui nous réserve une belle histoire à la fin de cet épisode, vous découvrirez une Laura très appliquée, très organisée, qui ne laisse pas de place à l'improvisation dans la planification de ses projets. Si vous adorez découvrir les coulisses, l'organisation et les stratégies d'autres yogipreneurs pour vous inspirer, cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager en story en nous taguant Laura et moi. Sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec la pétillante Laura. Je suis ravie de t'accueillir sur YogiBiz Podcast pour ce nouvel épisode.
Merci beaucoup Cécile, bonjour et aussi extrêmement ravie. On commence bien la semaine.
Ouais, on commence très bien la semaine parce qu'effectivement, nous sommes lundi, on enregistre cet épisode de bon matin. Alors Laura, vous la connaissez peut-être sous le pseudo Yogini Laurita sur Instagram. Je vais commencer par te demander si tu veux bien te présenter. En tout cas, si on sait aujourd'hui que tu es prof de yoga, on connaît peut-être pas ton parcours. Donc, quel a été ton chemin de vie jusqu'à devenir prof de yoga aujourd'hui?
Alors, donc déjà, il faut peut-être commencer par dire que je suis mexicaine et que j'habite en France depuis 12 ans, une douzaine d'années. Et voilà, et avant, enfin, je n'ai pas été prof de yoga depuis longtemps, enfin, je me considère en tout cas un petit bébé prof. Avant, j'étais commerciale, on va dire, dans une grande boîte. J'ai eu un parcours assez classique et puis finalement, j'ai décidé de me reconvertir. Et aujourd'hui, donc, je suis professeure de yoga à plein temps. Et j'enseigne, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en ligne principalement. Et j'essaie de développer de plus en plus d'offres digitales parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui se prête énormément au style de yoga que je fais et aussi aux thèmes, aux thématiques que j'aborde puisque j'essaie de me spécialiser dans tout ce qui est histoire et philosophie du yoga.
Super, écoute, je crois que c'est très très bien résumé. Donc ton quotidien aujourd'hui, c'est l'enseignement du yoga, c'est ton activité principale, c'est ça ?
Complètement.
Ok. Oui. Et du coup, tu donnes... alors, pour avoir une idée du coup du quotidien d'un prof de yoga qui est à 100% sur son activité de yoga, ça se traduit comment aujourd'hui? Tu donnes combien de cours? Je sais que effectivement tu développes tes offres digitales. C'est aussi pour ça que j'ai le plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Donc, combien d'offres en ligne peut-être tu proposes? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tout ça s'est organisé?
Oui, bien sûr. Alors, du coup, aujourd'hui, effectivement, je suis à plein temps. Mon planning a beaucoup changé avec tous les confinements et
et déconfinements et reconfinements.
Exactement. Disons que j'avais commencé l'année scolaire avec 13 cours par semaine, qui étaient principalement en présentiel. Et ensuite, avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, concrètement, je vais donner 6 cours par semaine en ligne. Et un cours privé que je donne en face à face à ma belle-mère, puisque c'est du yoga pour seniors, donc c'est assez spécifique. Voilà, et puis c'est vrai qu'en parallèle, donc je construis mes offres en ligne, donc j'ai des programmes en ligne qui abordent différentes thématiques de la philosophie du yoga. J'ai un programme sur 10 semaines qui va aborder les yamas et niyamas de Patanjali, voilà, au quotidien. J'ai également développé récemment donc un programme autour de la Bhagavad Gita et ses enseignements. C'est un programme qui mélange pratique et théorie. D'accord. Et ensuite, j'ai lancé à la fin de l'année dernière un mini programme en ligne, un calendrier de l'Avent. Très sympa, j'ai vraiment adoré le faire. Et j'ai lancé un mini programme aussi, à peu près en même temps que la Bhagavad Gita, sur 200. Pour comprendre en 2 heures l'histoire de la philosophie du yoga. Donc c'est vraiment un mini-programme et qui vous donne un contexte global de ce vaste monde, de la longue histoire, on va dire, de la philosophie du yoga.
C'est un petit peu plus comme une masterclass, du coup, non? En 2 heures, j'imagine, c'est...
Oui, c'est ça. Exactement, c'est des petits... En fait, c'est 7 vidéos, donc je découpe par période. Voilà. Effectivement, du coup, c'est des petites vidéos, mais au global, ça fait 2 heures. Donc effectivement, c'est comme une masterclass.
D'accord. Et les cours en ligne que tu donnes, ce sont des cours sur une thématique en particulier, c'est dans un endroit, enfin c'est pour des clients en particulier, c'est quoi ces cours en ligne? C'est dans un studio, enfin aujourd'hui ça doit pas, c'est en ligne, mais je veux dire c'est par un studio à la base ou c'est ça vient d'où?
Oui. Alors c'est un mélange un petit peu de tout, on va dire. C'est, disons que je propose en fait un abonnement pour avoir accès à tous les cours en ligne au trimestre. Et donc du coup, chaque trimestre, la façon dont on construit mes cours, c'est que chaque trimestre, on va aborder une thématique. Ce trimestre-là, en fait, avec mes élèves qui font les cours en ligne, on va aborder le bouddhisme. Et donc du coup, pendant donc chaque semaine, il y a une thématique différente autour du bouddhisme. Et en fait, parmi ces 6 cours de yoga à la semaine, il y a 2 cours que je fais avec un studio. En fait, où se mélangent mes élèves en direct, plus les élèves du studio qui s'inscrivent via le studio, en fait.
D'accord, ok. Et pour l'abonnement au trimestre, là, par contre, ça, c'est toi qui le gères, c'est toi qui as mis en place cet abonnement au trimestre?
Ouais, complètement. Donc c'est mes élèves qui s'abonnent directement donc sur ma plateforme, qui ont accès au lien des cours et qui ensuite se connectent. Voilà, c'est des cours vraiment. Ils peuvent faire tous les cours dans la semaine ou alors ils peuvent uniquement faire un cours par semaine si leur planning ne leur permet pas d'être là tous les cours.
C'est des cours en live.
C'est des cours en live. Oui, c'est des cours en live parce que j'aime bien quand même faire voir les élèves. C'est pour moi, c'est vraiment, enfin, même si on est dans un cours de yoga postural, on est vraiment dans un échange, et donc du coup je peux parfois adapter mon cours si je vois que les élèves, il y a certaines choses qu'il faut travailler ou pas, même si ce n'est pas la même chose que qu'un présentiel. Voilà, j'ai décidé de le faire comme ça parce que c'est plus facile pour moi, enfin en tout cas ça s'adapte plus au type de yoga que j'enseigne et avec les thématiques également.
D'accord. Et du coup, alors, juste parce que je sais que ça peut intéresser nos auditrices, nos auditeurs, tu dis que ça se passe sur ma plateforme pour s'abonner au trimestre. Donc, tu passes par quoi pour que les gens puissent s'inscrire comme ça avec un abonnement au trimestre? Tu passes par quel outil?
Alors, moi, j'utilise Podia pour toutes les offres que je propose en ligne. C'est vraiment... j'adore cet outil. Je trouve que c'est très complet. Et c'est vrai que le support, il est en anglais, mais... Bon, de toute façon, le français n'est pas ma langue maternelle, donc moi, particulièrement, ça ne me pose pas de problème.
Oui.
mais du coup, voilà. Donc, sur Podia, ils vont... C'est comme s'ils s'achetaient un produit, en fait.
Et oui, ils ont un bon de commande, en fait.
Exactement.
C'est un bon de commande, en fait, c'est ça. Et quand ils achètent, c'est valable pour 3 mois. Et ensuite, ils ont un lien de connexion. Et avec ce lien de connexion, ils peuvent assister aux différents cours.
Exactement. Enfin,
tu leur envoies aussi une invite Zoom, du coup, j'imagine.
Non, alors il y a juste les liens. En fait, ils se connectent à la plateforme et ils voient une espèce de planning avec plein de liens. Et donc, du coup, en fonction du cours,
ils ont le planning et les liens directement.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Ouais, bah c'est exactement, effectivement, tu sais, moi je travaille avec System.io et c'est exactement le même principe en fait qu'on peut utiliser via System. Donc c'est vrai que c'est très simplifiant quand même hein, de pouvoir utiliser ce genre d'outils. Ok, bah merci parce que c'est vrai que c'est toujours un peu aussi une appréhension quand on veut développer ses cours en ligne. C'est techniquement comment je gère ça et en fait comme quoi ça peut être tout simple avec un abonnement à un hébergeur de formation ou autre. C'est assez simple. Donc, 6 cours cours par semaine, des abonnements au trimestre, un cours privé. Donc ça, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément souhaité développer, du coup, les cours privés pour l'instant. Tu n'en as qu'un.
Pour l'instant, c'est vrai que j'en ai qu'un et ce n'est pas forcément, oui, effectivement, le type de cours que je souhaiterais développer. En tout cas, ce n'est pas forcément dans ma stratégie. Pour les cours privés, en fait, j'aimerais bien me focaliser sur le yoga pour seniors parce que ce sont des thématiques qui me touchent particulièrement. J'adore enseigner à ma belle-mère et du coup, maintenant, à mon beau-père qui s'est mis aussi au yoga. C'est une population qui est assez particulière, donc le yoga en ligne pour eux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, oui, donc les cours privés pour l'instant, c'est pas forcément ce que je souhaite développer.
Ouais, d'accord. Plutôt le yoga en ligne et les programmes digitaux. Hein,
oui, non, mais complètement.
Ce que tu préfères, je crois.
Oui, parce que déjà, je pense que dans les cours en ligne, dans les cours, pourquoi j'ai choisi d'avoir le trimestre, c'est parce que comme je développe des thématiques, en fait, il y a vraiment un parcours qui se fait avec mes élèves pendant tout le trimestre. Donc pour moi, c'est important d'avoir des élèves qui commencent et finissent un thème, qui ont vraiment du coup, qui apprennent peut-être, j'espère, quelque chose. Pendant tout ce trimestre, il y a une progression, peut-être pas au niveau postural, parce que c'est pas vraiment mon but, mais plus au niveau de la philosophie. Et les programmes en ligne parce qu'effectivement ça me permet de développer un petit peu plus en profondeur tous les sujets que j'adore enseigner et qu'on ne peut pas forcément aborder dans un cours d'une heure ou d'une heure et quart.
C'est hyper intéressant et si je peux rebondir là-dessus effectivement par rapport au fait de donner des cours à l'unité, l'avantage aussi quand on inculque, on éduque nos élèves à venir comme ça sur des cours, plusieurs cours dans un mois ou même comme tu le fais, c'est encore mieux je pense, au trimestre, eh ben, l'avantage effectivement c'est qu'il va y avoir aussi, c'est rendre service à nos élèves parce que quelque part une pratique plus régulière et plus constante va apporter forcément plus de résultats que d'avoir le choix de faire un cours à droite, à gauche de temps en temps et du coup il y a plus d'engagement aussi de nos élèves et c'est vrai que c'est aussi ce que j'essaye de transmettre moi quand je suggère voilà, de passer sur des memberships, donc des abonnements mensuels ou des programmes, bah c'est parce que justement, il n'y a que comme ça qu'on peut transformer et qu'on peut faire progresser quelqu'un sur une thématique, même effectivement, comme tu le dis, si ce n'est pas que postural, c'est pas notre objectif, c'est juste que les gens se sentent mieux par rapport à leur problématique à eux, qu'ils trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Et le fait de pratiquer régulièrement avec la même personne et de suivre un fil conducteur, c'est forcément beaucoup plus efficace et ça aura beaucoup plus de résultats qu'un cours en ligne par-ci, par-là. Et c'est pour ça que je suis complètement aussi pour faire rentrer les gens dans ce système-là plutôt que des cours à l'unité qui ne permettront pas malheureusement de sauver le monde, entre guillemets. Donc c'est hyper intéressant parce que voilà, on sent bien que toi tu perçois bien ça et que tu n'hésites pas justement à mettre ces choses-là en place parce que tu sais que in fine ça va avoir des résultats, de la transformation, de la progression pour tes élèves, donc c'est hyper intéressant. Et alors du coup entre tes cours en ligne, tes programmes, forcément j'imagine que tu n'es pas juste focus sur préparer tes cours, il y a aussi communiquer, il y a aussi en faire la promotion, les vendre, etc. Et donc ça aussi, ça fait partie des interrogations de beaucoup de profs de yoga et de jeunes profs de yoga ou de profs de yoga qui se lancent dans le online aujourd'hui. C'est moi à la base, je suis devenue prof de yoga pour donner des cours et je me retrouve à faire le yogipreneur avec tout ce qui est à côté, l'administratif, le juridique, la compta, mais aussi la com, la vente, le marketing, etc. Et alors, comment on fait pour faire rentrer tout ça dans son organisation? Comment toi, Laura, tu t'organises? Comment tu rythmes tes journées de yogipreneur?
Oula, grande question. Grande question parce que oui, alors d'un côté, donc il faut le dire, moi je travaille 6 jours par semaine sur 7. Donc il y a quand même beaucoup de travail qui est derrière tout ce que je fais. J'adore ce que je fais, donc c'est ça aussi qui aide énormément.
La passion, travail, la passion.
Voilà, c'est ça. Autant, c'est que parfois on a l'impression qu'on ne travaille pas. Mais bon, donc du coup, dans la semaine, j'essaye d'abord vraiment de m'accorder un jour off. Et je commence vraiment presque par ça, en fait, dans mon organisation.
Super, ouais.
C'est vrai que, en fait, il y a plusieurs. Moi, au sens de l'organisation, j'ai, on va dire, plusieurs timelines. J'ai ma timeline ou ma stratégie sur l'année, sur ce que moi j'aimerais bien développer dans une année scolaire, en fait, parce que c'est comme ça qu'en général on travaille avec, même avec les studios, etc. Donc, c'est sur une année scolaire. Je m'organise sur l'année, je vais poser justement les thématiques ou ce que je souhaite aborder, que ce soit avec mes élèves, en direct, donc dans les cours collectifs ou dans les programmes en ligne. Donc j'ai déjà un petit peu cette timeline, j'ai un peu cette vision globale à l'année, avec mes objectifs évidemment de vente, enfin de chiffres que je souhaite faire à la fin de l'année. Ensuite, j'ai ma timeline du trimestre. Parce que typiquement, bah, pour les cours collectifs, comme je vais aborder une thématique, je vais essayer de travailler un petit peu en amont pour savoir quels sont les thèmes qu'on va voir chaque semaine. Et si je fais des petites pauses, parce que pendant les vacances scolaires, il y a beaucoup de personnes qui partent, etc. Donc, je vais faire des mini-thématiques d'une semaine pour sortir de la thématique principale. Et donc, du coup, de parler d'autres choses, peut-être un petit peu plus léger, choses comme ça. D'accord. Donc, il y a vraiment tout un... Ouais, toute une structure au niveau du trimestre. Et ensuite, j'ai mon planning à la semaine qui va concrètement me permettre de réaliser et d'aller vraiment... de faire vraiment concrètement les choses qui me permettront de produire tout ce que j'ai envie de produire. Donc, en général, ce que je fais, c'est que le dimanche, je me pose avec mon chéri. On regarde son planning, mon planning. Je sais parce que... En fait, quand on fait des programmes en ligne, même quand on fait des cours en ligne, qu'on est dans un petit appart, ce qui est mon cas à Toulouse, au niveau de tournage, par exemple, au niveau des enregistrements, bah, parfois, il faut que je sois idéalement seule. Comme ça, bah, je sais que je peux parler, je sais que je peux rigoler, mon chat, il ne sera pas dérangé. Lui, il n'est pas du coup obligé de complètement être silencieux. Et presque de s'isoler pour ne pas faire du bruit. Donc, j'essaie vraiment déjà de caler nos deux plannings. Mmh. Et à partir de là, c'est vrai qu'en général, je vais faire quelque chose que tu conseilles beaucoup, c'est le batching. En fait, vraiment, je vais vraiment organiser mes journées par des demi-journées. Il y a le matin et l'après-midi. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est clé, en tout cas pour moi, et qui m'a... J'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, mais vraiment, c'est apprendre à connaître mon rythme. En fait, parce que d'un côté... Ah non, mais et ça, vraiment, ça a changé. Apprendre à connaître, mais surtout accepter mon rythme. Parce que comme avant, j'étais dans un bureau, si tu veux, j'avais l'habitude, en fait, de bosser à certains horaires, de travailler sous certaines contraintes ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on passe à l'état de l'entrepreneur où on est complètement libre de son temps et qu'on n'est pas forcément justement aligné avec les horaires de bureau, le fait d'accepter qu'on ne travaille pas forcément dans ce schéma-là, c'était un petit peu difficile. Mais à partir du moment où je l'ai fait, ça a vraiment tout changé. Parce que d'un côté, je sais que je suis très, très du matin. Je suis vraiment une personne du matin. Donc le matin, je vais faire tout ce qui me demande beaucoup de réflexion, des choses. J'aime bien écrire le matin, j'aime bien
créativité.
C'est ça, c'est vraiment les tâches qui vont consommer le plus d'énergie, je vais les faire le matin. Donc typiquement le matin, le lundi matin, je vais préparer mes cours pour la semaine, donc concrètement les séquences, etc. Les cours que je vais enregistrer pour les programmes en ligne. Donc il y a vraiment toute une matinée que je prends pour organiser tout ça. Et ensuite, l'après-midi, typiquement le lundi, je vais être là autour de la com pour la semaine. Je vais travailler donc sur la com pour la semaine, donc tout ce qui est post Instagram, stories, réel, tous ces petites...
On a vu que tu t'étais mis aux Reels. Tu fais ça bien, hein.
Merci.
On rigole beaucoup.
Merci beaucoup, mais tant mieux, c'est vraiment le but. Déjà, je pense que pour moi, c'est hyper libérateur parce que j'ai vraiment un côté très... je ris énormément de moi-même. Donc, et les rires, ça m'a permis
ça vraiment permet d'exprimer ça, exactement, ouais.
C'est ça, exactement ça. Et donc, en fait, au début, j'avais vraiment très peur, en fait, par rapport aux rires parce que déjà, il faut dire qu'au niveau technologique, moi, je me considère vraiment pas très forte. En fait, les réseaux sociaux, avant, je ne connaissais rien. J'étais à peine sur Facebook, je pense. Mais vraiment, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et en devenant prof de yoga, bah, du coup, j'ai dû apprendre plein de choses. Et les reels, c'était vraiment, j'avais très peur parce que je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et puis, en fait, ça suffit de faire tes tutos, quelques petits tutos sur YouTube et on apprend assez vite. Et finalement, c'est un outil qui est assez sympa à utiliser et léger, quoi. Très rigolo.
Ouais, c'est fun. Il faut vraiment, je pense, l'utiliser justement pour rester dans... C'est un bon moyen de montrer un petit peu son authenticité, justement, je trouve. Et qui on est dans la vraie vie, on peut faire des trucs sympas. Donc ça, c'est le lundi après-midi, du coup. Toute ta communication.
Donc ça, c'est le lundi après-midi. Exactement. Toute la communication, même ce que je vais écrire sur la newsletter, je sais déjà parce que j'ai déjà ma thématique, enfin, les thèmes que je vais aborder sur un trimestre. Donc... je sais que ça va être plus ou moins autour de ça. Mais donc, du coup, le fait concrètement d'écrire la newsletter, de raconter une petite histoire, etc., ben, ça va être le lundi. Voilà, tout ce qui est vraiment lié à la com, ça va être le lundi après-midi. Ensuite, le mardi, je le consacre à mes formations. Donc, parce que du coup, je suis intervenante aussi sur certaines formations pour devenir professeur de yoga. Je suis intervenante pour la partie philo. Donc, le mardi, je travaille surtout soit à apprendre. Il y a vraiment des matinées où c'est vraiment de l'étude pour moi. Soit je lis, soit je fais des cours en ligne, enfin voilà, des choses comme ça. Et ensuite, je travaille sur les formations concrètement. Le mercredi, ça va être journée de tournage et programme en ligne. Le jeudi, alors c'est un petit peu particulier parce que le jeudi, du coup, je m'accorde un petit peu de liberté en fonction de ce que j'ai réussi ou pas à faire dans la semaine. Donc voilà.
Récompense ou alors faut rattraper quoi.
C'est ça, récompense, ménage au rattrapage. et voilà, et ensuite je parle avec ma mère tous les jeudis, ma mère qui est au Mexique. Donc c'est vraiment aussi ce que j'essaie de faire, et je pense que ça c'est très important, c'est que j'essaie vraiment de mettre dans le planning des choses qui me tiennent à cœur sur le plan personnel. Et comme ça je suis sûre de ne pas les rater en fait, parce que c'est... Ouais. Voilà, sinon on peut très très vite se faire happer, se faire prendre par des choses qui vont forcément arriver, parce que dans notre vie, en tout cas pour moi ça a été le cas, dans ma vie d'entrepreneuse, du coup aujourd'hui il y a toujours des sollicitations, il y en a toujours plus de choses à faire, on pourrait faire toujours plus, et en fait si on ne se cale pas, si on ne s'accorde pas ces temps-là, bah, très vite on peut devenir du coup soit frustré, soit... fatigué, et ce n'est pas le but finalement de... On n'est pas là pour ça, a priori, si on a choisi.
Ben non, et puis surtout que quand c'est notre entreprise, on est notre moteur. Donc si nous, on est fatigué ou voilà, on perd pied ou on se sent débordé, bah, forcément, ça va avoir des répercussions. Hein, et c'est là où il faut savoir effectivement réagir par rapport à ça et s'organiser. Et effectivement, très bon conseil, toujours commencer à planifier sa semaine en mettant les choses dont on a besoin pour soi ou les choses qui sont importantes pour nous. Alors, bien évidemment, voilà, on ne fait pas que des loisirs peut-être tous les jours, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, une pratique de yoga, un lunch avec une amie, téléphoner à sa maman, enfin tout ce qui peut être important, la journée off, etc. C'est hyper important après de tourner autour de ça, mais de mettre ces focus-là en priorité. Je suis quand même assez d'accord aussi là-dessus. Et alors, du coup, petite question pour organiser tout ça, alors que ce soit l'année, le trimestre, le mois ou la semaine, tu as un outil d'organisation que tu utilises ou pas du tout, ou plusieurs outils d'ailleurs peut-être?
Alors, je suis une... je ne sais pas si c'est vraiment un outil, mais vraiment, j'adore Excel. Je pense que c'est aussi
d'accord.
Voilà, c'est mon côté très geek, et avec Excel je fais pratiquement tout.
D'accord. Donc, non, mais c'est vrai qu'Excel c'est une solution, c'est très pratique, hein, c'est clair.
Voilà, on n'a pas besoin de... enfin en tout cas moi j'ai pas besoin de plus, vraiment Excel pour on va dire les longues timelines. Et pour la semaine, bah, du coup, je te l'ai montré, tu vas peut-être publier.
Alors, je partagerai la story du tableau c'est un peu genre le tableau en liège et avec des petits post-it. Mais moi, j'adore. Hein. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Hein. Je pense que voilà, à chacun son organisation. Donc, dans ce petit tableau en liège, en fait, tu as toute ta semaine, c'est ça ?
C'est ça, avec exactement. Les j'ai mon petit tableau et avec les post-it qui changent tous les jours. Bon, c'est vrai que c'est pas très très écolo, mais il y a des post-it qui ne changent pas parce qu'il y a des choses qui ne changent pas chaque semaine, typiquement mes cours et certains trucs. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un coup de couleur aussi, donc ce qui me permet de voir mon petit tableau et je sais que c'est plus ou moins, ce sera une journée verte et donc du coup, ça sera une journée voilà consacrée à X thématique ou d'autres choses. Mais voilà.
Comme quoi, il y a une organisation bien rodée hein, derrière tous ces programmes en ligne et ces cours en ligne. Bon, bah, c'est génial. Et effectivement, j'ai pris une petite photo. Donc, si vous êtes sage, eh ben, je vous partagerai la photo en story du tableau d'organisation de Laura. Alors, du coup, comme j'en parlais en introduction, hein, la thématique de notre épisode, c'était un petit peu de casser les mythes et les fausses croyances pour réussir en tant que prof de yoga. Et particulièrement en ligne. Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce concept. C'est quoi pour toi, Laura, réussir ? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, tu considères que tu as réussi ou entre guillemets, enfin que tu es en train de réussir ? Mais justement, selon ta définition, tu vas pouvoir nous dire où tu te trouves par rapport à ça. Et du coup, ben voilà, je te laisse nous expliquer ce que c'est pour toi réussir.
Oui, alors c'est vrai que c'est une très très bonne question. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi en fait quand je l'ai reçue parce que c'est vrai que derrière le mot réussite, parfois il y a ce qu'on pourrait penser que c'est la réussite parce qu'il y a notre conditionnement et la façon dont on a été élevé ou même ce que la société peut nous dire qu'il y a derrière ce mot. Et puis il y a un petit peu notre définition personnelle de ce qu'est la réussite. Et c'est vrai qu'au début, en fait, moi, j'avais l'impression, parce que quand je parlais avec mon entourage, avec mes proches de ce que je voulais faire, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais voilà, du coup, si tu es sur Instagram, maintenant, tu vas devenir influenceuse. Et donc, du coup, il faut que tu aies plein de... Et donc, du coup, tout le monde veut te donner conseil. Et c'est avec beaucoup de bienveillance hein, qu'ils le font. C'est parce qu'ils s'intéressent aussi à ce que tu fais, etc. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a une énorme pression sur ce que ça peut être la réussite pour quelqu'un, en tout cas pour moi ça a été le cas. Et à un moment je pense que pour moi c'était vraiment ça en fait. J'avais l'impression que être prof de yoga qui réussissait aujourd'hui c'était le fait d'avoir plein de followers sur Instagram, plein d'élèves, des cours complets, etc. Et puis très vite on va se confronter à plein de choses qui vont pas aller forcément dans ce sens-là. Et aujourd'hui j'ai une vision de la réussite qui va se composer de deux choses. En fait, il y a pour moi la réussite, ce qu'on appelle personnelle, de pouvoir vraiment en vivre confortablement. Donc, c'est quelque chose que je veux faire à plein temps et j'ai vraiment envie que ça soit mon métier et ma seule source de revenus. Donc, le fait de pouvoir en vivre confortablement sans forcément avoir, voilà, des millions et des millions d'euros chaque année.
Oui, c'est ce qu'on veut, soit nous-mêmes pour être bien avec ce qu'on gagne, quoi. Enfin, ce dont on a besoin. Voilà, après, chacun, effectivement, met le cursus.
Exactement. Et aussi d'avoir le temps d'être avec ma famille, que ce soit mon chéri ou ma famille au Mexique, de pouvoir les voir, aller les voir. Et effectivement, de pouvoir bien manger et bien dormir en général. Parce que c'est vrai que aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai avec lequel je travaille encore. Parce que... Je suis un petit peu de nature obsédée, c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire un truc, je peux vraiment m'immerger dans ce truc et ne faire que ça. Et parfois, c'est vraiment au détriment de ma santé presque, parce que du coup, je ne dors pas, et donc du coup, comme je ne dors pas, c'est un cycle vicieux horrible.
Je t'ai entendu dans ton live l'autre jour avec où tu disais, oui, je peux être comme un chat la nuit, je me réveille, et d'un seul coup, je... Voilà, c'est ça en fait, c'est que voilà, jour et nuit, t'es sur ton projet. Ouais.
C'est exactement ça, vraiment parfois, et ça m'arrive quand je suis vraiment en train de tourner un programme en ligne, en train de le faire, à 2-3 heures du matin, je vais me réveiller, je vais avoir l'idée, je vais bosser, et comme ça jusqu'à, je sais pas, 9 heures du matin, où je me suis rendu compte que j'ai pas pris le petit déj encore, et donc du coup, il faut que je mange, et après je continue, et en même temps, ça fait partie aussi, tu vois, des choses que je commence à accepter, parce que maintenant, je sais que je travaille comme ça, et que du coup, j'aurai des périodes très intenses, et ensuite, viendra une période qui sera vraiment, c'est ma période, ce que j'appelle de crash, où vraiment mon corps et tout me dit, ok, ça y est, là, il faut du repos, et où je vais vraiment essayer de recharger les batteries, Et le fait que je sois du coup organisée un petit peu à long terme, ça me permet aussi d'avoir cette liberté, tu vois, de me dire, bah, s'il y a un ou deux jours pendant lesquels je ne veux presque rien faire, bah, c'est OK. Parce que tout le reste, c'est déjà, ça tourne un petit peu, donc pourquoi pas. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de la réussite où il faut trouver un équilibre personnel qui m'est très important. Et puis sur le fait, on va dire sur le côté un petit peu plus pro, réussir pour moi, c'est vraiment de travailler et d'être libre dans mon travail, de choisir ma stratégie, de faire ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que du coup, j'adore être entrepreneuse, du coup, yogipreneuse. D'avoir une base d'élèves aussi qui progressent et qui évoluent, c'est vraiment une des choses qui me tient vraiment à cœur, et de pouvoir transmettre et démystifier aussi la philo du yoga, parce que parfois on a vraiment cette impression que la philosophie du yoga est quelque chose d'inatteignable, de très difficile, et c'est un petit peu pour moi aussi, il y a derrière la réussite, il y a aussi ce côté-là.
Ça, c'est ta mission. Je pense.
Ça, oui, au fond, voilà,
c'est ta mission, c'est ton pourquoi, c'est vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment ça, c'est transmettre et démystifier la philosophie du yoga. Ça, c'est en toi, c'est viscéral, c'est.
Exactement. Oui, c'est ça. On peut effectivement, c'est ma mission. Et je sais que je suis en train de réussir si je m'amuse dans ce que je fais. Honnêtement, c'est pour moi, c'est il y a vraiment là où je me sens bien. Si je suis en train de prendre du plaisir dans ce que je fais, si je kiffe, voilà, c'est que je suis sur la bonne voie.
Et tu atteins tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés.
Alors, c'est une question par rapport à ça.
Oui, par rapport à la réussite aussi, parce que effectivement, comme tu disais, il y a le fait de pouvoir en vivre entre guillemets confortablement, et donc il y a aussi la partie je m'amuse, mais à un moment donné, effectivement, il faut que ce soit rentable pour pouvoir en vivre confortablement. Rentable après, comme on disait tout à l'heure, chacun après met le curseur là où il veut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ces petits pas que t'as instaurés en ligne entre tes cours au trimestre, tes programmes, etc., te permettent d'atteindre tes objectifs, je crois, petit à petit. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, tu peux dire que voilà, t'es plus sereine aussi là-dedans, que tu t'amuses. Et en plus, voilà, ça te permet d'en vivre. Et finalement, est-ce que c'est pas juste ça, oui, la réussite, quoi.
Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est un cercle qui s'alimente, en fait, parce que je me rends compte que quand je m'amuse, du coup, ça parle aux gens. Et donc, du coup, je peux attirer des gens. Et en même temps, quand j'arrive à, typiquement avec le trimestre, si tu veux, là, j'ai une base élève, je sais, qui va m'accompagner pendant le trimestre. Et ça, d'un point de vue économique, ça m'enlève une pression qui est économique et qui est réelle. Et à partir de ce moment-là, du coup, je ne suis pas dans une logique de je fais le cours parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais plutôt je fais le cours et je donne des cours parce que j'ai envie de transmettre et donc je suis en train de m'amuser. Donc il y a vraiment tout un truc qui se crée, vraiment un cercle vertueux qui s'instaure.
Mais quelque part, c'est parce que aussi justement, tu as cette vision à moyen long terme de ce que tu veux faire sur l'année, parce que aussi, tu crées des choses pour que finalement elles s'alimentent. Enfin, par exemple, les cours au trimestre, tu sais que tu as besoin de cette stratégie pour toi te sentir en sécurité et justement développer une activité pérenne. Et donc, comme quoi il faut. Enfin, tous les chemins mènent pas à Rome, entre guillemets. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à nos objectifs, là où on veut aller, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place pour arriver à cet objectif. Et puis, à un moment donné, sauter les deux pieds à pieds joints dedans, y aller. Et effectivement, c'est ce qui va faire. Après, quand on a cette structure, on est vachement plus confiant aussi. Et donc, du coup, on peut commencer à s'amuser et... y a un peu la loi de l'attraction, en fait, qui se met en place, je crois.
C'est ça, à ce complètement. Moment-là.
Et alors, justement, le truc, c'est que quand on parlait de casser les mythes et les fausses croyances, donc on en a discuté avant l'épisode, tu pouvais avoir, toi, le sentiment, en fait, finalement, quand tu as commencé ta carrière de prof de yoga ou quand tu étais venue au yoga, de ne pas répondre aux critères, aux fameux critères, en tout cas, de ne pas être assez pour bah, voilà, avoir cette activité de prof de yoga en ligne rentable, pérenne. Et tu m'as cité par exemple le fait de pas forcément avoir un corps souple, une pratique instagrammable, etc. Alors, est-ce que tu peux effectivement nous parler de ces aspects, puisque bah, t'en es la preuve vivante, on voit qu'on peut quand même réussir, même si on pense qu'on n'est pas assez ou qu'on répond pas à tous les critères, les mythes en tout cas autour de ces critères. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça?
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, j'avais très peur. Mais en fait, j'ai toujours peur. Je pense que c'est ça aussi la chose. C'est que depuis le début, j'ai eu peur, effectivement, de ne pas répondre à certains critères. Donc, effectivement, je ne suis pas très souple. Je ne suis pas... Je suis, voilà, avec le corps que j'ai, je suis toute petite, très compacte. Mais hein, je pense qu'elles sont faites de certaines façons que, d'une certaine façon qui fait que je ne peux pas faire beaucoup de postures. Donc... voilà, et en plus, comme je disais, bah, les réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc au début. Mmh. Donc, au début, j'ai vraiment commencé avec zéro abonné sur Instagram et ça a vraiment pris du temps pour me faire connaître, pour du coup donner envie aux gens de venir avec moi alors que je n'étais pas forcément dans une logique posturale ou voilà, je ne pouvais pas poster des photos. De toute façon, j'ai jamais voulu poster trop de photos dans des postures Instagrammables, enfin, ce que j'appelle Instagrammables. Et c'est vrai que pour moi, c'était peut-être au début un frein. Et puis finalement, je savais que depuis que j'ai commencé à être prof de yoga et à donner de cours, je savais qu'il y avait quand même cette partie philo qui me tenait énormément à cœur. Et c'est vrai, c'était vraiment ça que j'avais envie de transmettre. Et puis avec ton podcast, je me suis sentie très rassurée en fait sur le fait que tu disais, bah, en fait, il faut se spécialiser, trouver un petit peu sa niche et son client idéal. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, ok, il faut que je me lâche sur ce que j'aime.
Sur tes forces.
Et que j'assume, exactement, que j'assume, que je ne vais pas m'adresser à tout le monde, et c'est très bien, et c'est même mieux, et que je veux aborder vraiment peut-être ça, ouais, le yoga d'une façon qui sera propre à moi, et c'est ok. Et voilà, ouais, c'était vraiment...
Donc finalement, ça t'a aidé... alors là, je suis quand même super ravie d'entendre ça parce que ça veut dire que quelque part, le fait de justement pouvoir aller là où tu avais envie et donc en fait te spécialiser et ne pas t'adresser à tout le monde, grâce au podcast finalement, ça t'a apporté cette légitimité en fait. Tu t'es sentie plus légitime d'un coup, quoi, ouais.
Oui, non mais complètement, vraiment tu m'as vraiment donné ce déclic en fait et grâce à toi du coup je me suis dit ok, je peux assumer, c'est ok de me lancer à fond sur ce que j'aime,
sur la philo du yoga,
sur ces sujets et à partir de ce moment là vraiment du coup tous ces blocages que j'avais si tu veux et ces croyances limitantes, bah elles sont pas disparu complètement et s'y sont toujours, mais j'avance quand même et j'avance beaucoup plus facilement.
Ouais. Du coup, finalement, bah, pour peut-être d'autres jeunes profs de yoga aujourd'hui qui se sentiraient pas assez légitimes ou effectivement qui pensent qu'elles manquent d'expérience, bah, est-ce que c'est un. Enfin, du coup, on voit que toi, tu as réussi à lever ces freins. Et qu'est-ce que finalement, ça serait quoi ton message pour peut-être ces jeunes profs par rapport
Alors,
à ça
je pense que j'ai une toute petite expérience, donc je ne sais pas si
justement.
Je peux donner, en tout cas, les conseils. En tout cas, ce qui a marché pour moi, d'abord, c'était le fait déjà de créer des opportunités au sein même de ce qui pourrait paraître au début une difficulté. C'est-à-dire que le contexte Covid était certes très limitant pour beaucoup et pour beaucoup de profs de yoga, c'est encore difficile et on sait que ça a complètement changé la donne. Mais moi, c'est un petit peu le contexte Covid qui m'a permis de me lancer en fait de façon digitale. Je pense que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait s'il n'y avait pas eu tout ça. Et finalement, comme quoi les barrières peuvent parfois alimenter notre créativité et nous pousser à faire des choses qu'on ne serait pas forcément, qu'on ferait pas forcément s'il n'y avait pas ça au début. Je suis toujours un petit peu de l'idée que quand on se lance dans quelque chose, on ne perd rien, Et on a beaucoup à y gagner, ne serait-ce que l'apprentissage et l'expérience de cette aventure. Donc, moi, à chaque fois que je lance quelque chose, ou même quand je me suis lancée en tant que prof de yoga, je me suis dit, bon, au pire, ça va être une anecdote amusante de ma vie. Et je ne perdrai pas grand-chose, finalement, parce que je suis en train de faire quelque chose que j'aime. Si on a envie d'enseigner, autant le faire avec des choses qu'on aime et autant le faire sur des sujets qu'on aime transmettre. Donc le fait aussi de se focaliser sur un client idéal, ça va vraiment nous aider en plus à nous amuser plus et donc du coup à mieux vivre notre vie de yogipreneuse. Et pour moi, c'est très important aussi de rester humble, de toujours se dire voilà, ok, je suis nouvelle et moi je le répète vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas parce que je suis nouvelle que je n'ai pas de choses à dire. Et oui, et le fait que je suis nouvelle, ça veut dire peut-être aussi que j'ai énormément des choses encore à apprendre. Et c'est là où les élèves sont vraiment des grands professeurs pour nous, en tant que jeune prof. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et ouais, de ne pas avoir peur, en fait, de le dire. Je pense que c'est même quelque chose qui peut rassurer les gens quand on est transparent, quoi.
Exactement, mais il faut savoir, et on est tous comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on a peur et on se sent pas légitime quand on n'a pas, selon nous, suffisamment d'expérience, alors qu'en réalité, même nous, très souvent, on préfère apprendre avec des gens qui, quand ils nous parlent, on sent qu'il n'y a pas un trop gros gap entre nous et cette personne-là, alors que parfois, quelqu'un qui va avoir beaucoup, beaucoup plus d'expertise sur un sujet va finir par utiliser des termes ou aller beaucoup trop loin ou beaucoup trop vite pour des gens qui sont débutants. Et ne jamais oublier que 90% de notre audience, souvent, quel que soit notre domaine, que ce soit pour la philo ou d'autres thématiques autour du yoga, souvent 80% de notre audience, de notre public, de nos futurs acheteurs, ce sont des débutants en fait. Et donc, quelque part, le fait d'avoir juste une, deux, trois étapes d'avance, ça va nous permettre de continuer à parler avec les bons mots, de continuer à aborder les concepts en se remettant à cette place-là d'il y a quelques mois ou quelques semaines ou quelques années en arrière où on avait besoin d'apprendre des concepts simples, des choses simples. Et donc, au contraire, c'est une force de pas forcément avoir 15 ans d'expérience sur une thématique parce qu'on peut très vite oublier ce que c'est que d'être débutant et s'adresser aux gens, pas forcément avec les bons mots, et les perdre, en fait, du coup.
Complètement.
Donc ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, et il faut prendre conscience qu'au contraire, c'est une force.
Oui, complètement. Et il y a aussi le fait qu'on n'est pas seul. En fait, moi, dans notre vie d'entrepreneur, parfois, on peut se sentir très seul quand on doit prendre des décisions pour sa stratégie, etc. Mais moi, ce qui m'a énormément aidée, et c'est vrai qu'on voit peut-être parfois que les réussites, mais dans mon parcours, j'ai eu aussi des relations avec des studios qui ne se sont pas bien passées, des choses qui n'ont pas forcément marché, que j'ai tenté de faire. Et à chaque fois, je me tournais aussi vers mes collègues professeurs de yoga, et je leur demandais conseil. Et vraiment, le fait de chercher de l'aide, ne serait-ce que, tu vois, en écoutant ton podcast, il y a énormément de ressources et d'outils pour ne pas se sentir seul et essayer de trouver d'autres solutions aussi en cherchant d'autres expériences, ce qui s'est passé, ce qui a marché pour une personne ou pas. Et savoir que les peurs et les doutes, je pense qu'elles seront toujours là, en fait. Et c'est pas grave, il faut vivre un petit peu avec, c'est comme avec l'anxiété, ce qu'on enseigne beaucoup en yoga. Ce n'est pas de les bloquer, mais plutôt de se dire, ok, je leur donne la place, mais j'avance quand même.
Très bien, bel enseignement. Alors, du coup, t'as géré ce truc de la légitimité en te positionnant et en allant à fond finalement sur ton client idéal en termes de communication, de produits digitaux, etc. Et donc ça, c'est l'un des fondamentaux d'un business en ligne. Donc on a cette bonne base là. Et puis souvent ensuite, la deuxième problématique que moi j'entends très souvent des profs de yoga, c'est mais comment me faire connaître? C'est ok, éventuellement maintenant j'ai mon positionnement, je sais à qui je veux m'adresser, mais j'arrive pas à me faire connaître ou comment faire venir plus de gens à moi. Alors souvent il y a un petit peu d'impatience, hein, parce que bon, c'est, je le dis souvent, mais ça peut pas être un overnight success. Mais ceci dit, bah, il y a des choses à faire peut-être effectivement. Tu parlais toujours de tout à l'heure de se créer des opportunités entre autres, mais voilà pour développer en fait son audience, pour se faire mieux connaître. Alors toi aujourd'hui, je crois que tu as près de 1500 followers sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as réussi à attirer des gens petit à petit vers toi ?
Oui, je pense qu'encore une fois, le fait de ne pas être seule et de travailler à plusieurs, c'est vraiment quelque chose d'assez amusant et d'assez sympa. Et donc du coup, pour moi, les collaborations ont toujours été très importantes. C'est quelque chose que j'adore faire. La toute première et qui m'a amené beaucoup de personnes, c'était ma collaboration avec le podcast Salutations, avec donc Anne Lorgonnet, que je connaissais de mon teacher training, et qui a lancé ce podcast qui est incroyable. Et en fait, en discutant avec Anne-Laure, à un moment, je me suis dit, en fait, tu sais, on pourrait faire un truc très sympa. Moi, j'avais un podcast avant, donc je savais ce que c'était. J'avais déjà un petit peu l'expérience de l'enregistrement, d'un audio, etc. Et donc, du coup, j'avais envie de raconter des histoires. Et je me suis dit, pour l'été, ça pourrait être sympa de créer une série d'été autour de la mythologie hindoue. Je lui ai proposé ça. Elle m'a dit, ah, c'est génial, etc. Enfin bref, on a commencé à travailler ensemble. Et finalement, c'est vrai que c'est cette collaboration qui m'a permis de faire mon premier petit saut. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai, en fonction de certains, je pourrais ne pas avoir beaucoup de followers, mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, les followers que j'ai sont vraiment dans mon client cible, dans ma cible.
Je dirais, c'est donc une audience qualifiée.
Voilà, c'est ça, je cherchais le mot, merci. Tu vas dire que je ne les écoute pas assez, tes épisodes, je te jure, si. Mais voilà, j'ai une audience qui est qualifiée, donc c'est vraiment très sympa. Pour moi, c'est déjà d'avoir passé la barre de 1000, je suis trop contente. Ensuite, ce qui m'a aussi permis de continuer à grandir cette communauté, c'était ma collaboration avec Yogom. Donc, le fait que je sois intervenante maintenant pour la partie philo, et donc je fais partie de l'Académie Yogom les dimanches, et parfois je fais des lives sur la philosophie et l'histoire du yoga. Et à ne pas oublier aussi les petites collaborations que je fais. Et la semaine dernière, c'était vraiment très, très chouette parce que j'ai fait mes premiers lives avec des personnes que j'adore. Benjamin de la Voix d'un Yogi et Isa de Yogis Alive. On a fait des lives qui ont eu c'était très chouette. Ils ont eu beaucoup de succès. Tout le monde était très content de ces échanges. Et voilà, honnêtement, c'est des choses que j'adore faire. C'est des choses qui aussi donc vont me permettre de me faire connaître plus facilement et vont me permettre de grandir
plus vite,
ma communauté.
C'est sûr.
Et là, si justement, et je pense que c'est important de le dire, si je suis aujourd'hui à presque 1500 abonnés, c'est aussi grâce au challenge qui vient de sortir et qui commence aujourd'hui autour de la Bhagavad Gita. Donc là, c'est vraiment une application sur tout ce que tu nous as dit ces derniers temps, parce que le challenge, c'était un succès. Vraiment, je ne pouvais pas croire que ça allait être aussi, je sais pas, j'ai même pas de mots, tu vois, là, pour le dire. C'est incroyable ce qui se passe avec le challenge. Je pense que grâce au challenge, j'ai eu, on va dire, 300 followers de plus tout d'un coup, en l'espace d'une semaine. Enfin, c'est dingue, quoi. Voilà.
Et du coup, alors, du coup, on va faire le lien directement avec le challenge. Donc, en fait, tu es passé par le Yogi Challenge Pack, du coup, donc qui est un produit que je vends, effectivement. Et donc, en fait, quand tu dis que ça a été un succès, tu peux nous dire un petit peu, du coup, comment tu as lancé ça par rapport à la formation, combien tu as d'inscrits. Enfin, voilà. Déjà, tu viens de nous dire que ça t'avait apporté 300 followers en plus. Mais qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce que tu as appliqué, en fait, dans la formation et qui fonctionne, selon toi ?
Alors, la formation est vraiment géniale parce que ça permet de lancer un challenge qui va être complètement en accord, enfin qui s'adaptait extrêmement bien, en tout cas à ma cible, qui s'insère dans ma logique aussi de programme en ligne très très bien. Et finalement, c'était quelque chose de très très facile à appliquer parce que tu avais déjà tout prévu. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a presque à... déjà à se poser les bonnes questions, et ça, grâce à toi, du coup, c'est fait. On se pose les bonnes questions sur ce qu'on veut mettre en avant, sur comment on veut structurer le challenge, le dérouler, etc. Et ensuite, ce n'est qu'une question vraiment d'appliquer et faire un petit peu comme ce que tu as préconisé dans le challenge. Et ça va finalement assez vite. Moi, je pensais pas que je savais que ça allait me prendre vraiment du temps. Si je l'avais fait toute seule, ça m'aurait vraiment pris très longtemps. Et finalement, je pense qu'entre le moment où j'ai fait la formation et le moment où j'ai lancé vraiment la promotion pour le challenge, il s'est passé 3 jours. Honnêtement, c'était très... Ouais, j'ai eu l'idée.
Efficace.
En plus, voilà, c'était très efficace. Et aujourd'hui, premier jour du challenge, on commence avec 365 inscrits.
Ah ouais, donc, génial.
Incroyable. Alors que je n'ai eu qu'une semaine, en fait, pour promouvoir le challenge. Parce que, en fait, c'était aussi par rapport au live que j'ai fait avec Yogom sur la Bhagavad Gita. Ça s'insérait extrêmement bien pour lancer, du coup, la promotion du challenge. Je sais pas, toutes les dates étaient vraiment alignées. Et
ce que je préconise d'ailleurs dans la formation, hein, de faire aussi des lives si on peut, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est une option effectivement de faire des lives sur le sujet. Donc toi, bah, justement, avec tous tes lives, là, tes petites collabs, forcément, ça t'a forcément attiré du monde puisque tu as exposé ta visibilité et finalement, tu as fait la promotion de ton challenge auprès d'audiences similaires à la tienne sur des comptes que tu as invités. En fait, sur ton Instagram en live. Donc, bah, t'as appliqué les bonnes recettes, quoi.
C'est ça. Non, honnêtement, il y a eu un alignement de planètes qui a fait que, voilà, tout s'insérait très, très bien.
Ouais, c'est génial. Bon, en tout cas, je suis ravie, hein. Donc, voilà. Et comme quoi, c'est une formation, si elle est bien mise en application, qui fonctionne, et surtout un bon raccourci, évidemment, pour pouvoir faire ça sans stress, sans procrastiner, sans que ça mette des mois. Donc ça, c'est top. Bah, je te remercie en tout cas pour ce petit retour en live sur le Yogi Challenge Pack.
Bah non, merci à toi.
Et du coup, alors si on reste un petit peu dans les coulisses, j'aimerais bien juste revenir un petit peu sur tes programmes, parce que tu sais que moi aussi dans Yogi Bizline, du coup, bah, je forme mes élèves en fait à la création et au lancement d'un programme, donc bah, notamment avec la stratégie aussi des challenges pour les lancements. Et puis en termes de création, bien évidemment, dans Yogi Bizline, on travaille en amont bah, sur tous les fondamentaux dont on a parlé, à savoir le positionnement, le travail du client idéal, comme parce que bah, voilà, tu me dis très justement, c'est incontournable derrière pour avoir des produits qui se vendent et qui fonctionnent, et puis surtout pouvoir aider les gens à apporter quelque chose. Donc toi, de ton côté, comment tu t'organises en fait? Enfin, tu nous as un petit peu parlé de ton organisation tout à l'heure en termes de batching, etc. Mais j'aimerais savoir, c'est comment deviennent les idées pour créer un programme, et ensuite du coup derrière, bah, même si on va peut-être se répéter un petit peu, mais comment tu gères ça pour créer ce programme de A à Z en fait, jusqu'à la vente?
Oui, alors pour les programmes en ligne, c'est vrai que j'ai pas dit quelque chose qui est assez importante, c'est que en fait je vais toujours lancer un programme en ligne que j'ai déjà plus ou moins testé en cours. Parce que typiquement, bah, pour le programme, que ce soit pour le programme des Yamas et Niyamas ou pour le programme de la Bhagavad Gita, il y a eu un trimestre pendant lequel j'ai parlé de la Bhagavad Gita dans mes cours collectifs. Donc j'avais déjà un petit peu une première matière à travailler où je testais avec mes élèves certaines thématiques, où je voyais du coup quels étaient leurs questionnements, quels étaient leurs difficultés sur cette thématique en particulier. Donc en cours collectif, c'est un petit peu mon laboratoire où j'expérimente. Mmh. Et ensuite, à partir de là, j'ai déjà un petit peu j'ai déjà un terreau sur lequel je peux commencer à construire un programme en ligne qui va aller plus loin. Dans toutes ces problématiques-là, je vais du coup vraiment identifier le problème à résoudre, et je vais pouvoir du coup m'éclater, parce que du coup le programme en ligne, effectivement, il n'y a plus de barrière de temps ou de limite, et c'est vraiment ça qui est génial. Donc le fait de réutiliser un petit peu aussi le contenu est quelque chose qui me permet de gagner beaucoup de temps. Bah, typiquement, les Yamas et Niyamas, c'était un programme qui était sorti parce que pendant le confinement, j'avais lancé justement... pour lancer mes cours live sur Instagram, au moment où tout ça commençait à se faire, j'avais commencé à attirer des gens parce que je leur proposais justement chaque jour d'étudier un yama et niyama et de l'appliquer dans un cours de yoga. Donc j'avais déjà les séquences et je me suis dit, mais ça, avec ça, en fait, on pourrait refaire d'autres choses. Et c'est comme ça que finalement, le programme est venu presque... organiquement, en fait, si tu veux. J'avais déjà le matériel, j'ai écouté ton podcast et je me suis dit, ok, bah voilà, j'ai déjà le thème, j'ai déjà un petit peu le contenu. Maintenant, il va falloir vraiment l'étoffer, aller un petit peu plus en profondeur, mais c'est déjà là. Et pour l'inspiration des programmes, c'est assez marrant. Déjà, je pense que sur l'histoire et la philosophie du yoga, il y a énormément de thématiques qu'on peut explorer, qui ne sont pas encore explorées. Donc voilà, à partir du moment où j'ai justement mon client idéal, c'est beaucoup plus facile de sortir des thèmes pour avoir des programmes. Et aussi, je m'inspire énormément de ce qui se passe en dehors du monde du yoga. C'est-à-dire que, par exemple, pour le calendrier de l'Avent, j'adore les calendriers de l'Avent. C'est quelque chose qui n'existe pas au Mexique. Et donc, quand Noël arrive ici, je suis fan des calendriers de l'Avent et j'en achète tout le temps. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, mais ça serait sympa, en fait, d'en créer un pour le yoga. Même chose avec le petit post que j'ai mis il n'y a pas très longtemps sur combien de postures vous pouvez trouver avec des petites images. Mais c'est la même chose, c'est des choses que je vois qui se passent ailleurs, dans d'autres comptes que je suis, qui n'ont rien à voir avec le yoga. Et voilà, et j'essaye du coup de matcher, de l'appliquer à mon univers en fait.
C'est génial. Bon, en tout cas, ça a l'air de très bien fonctionner, Laura. Et du coup, alors justement, pour conclure sur tout ça, j'aimerais bien que tu nous racontes, je vais en profiter, que tu nous racontes une petite histoire philosophique du yoga sur le thème de ton choix. Hein, voilà, pour clôturer cet épisode et pour aller un petit peu dans le sens de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Alors, est-ce que tu aurais un petit quelque chose à nous raconter pour nous inspirer, nous aussi, justement?
Oui, alors quand j'ai pensé à ce thème et à une histoire qui pourrait vraiment nous inspirer avec un alignement avec tout ce qu'on s'est dit, il y a une histoire que j'adore autour de Ganesh, personnage de la mythologie hindoue que j'adore et que tout le monde connaît. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Ganesh ou Ganesha ou Ganapati, c'est cette divinité à la tête d'éléphant. Très sympathique, très populaire également en Inde. Et en fait, il y a une histoire qui nous raconte. Donc, il faut savoir que Ganesh, en fait, fait partie d'une famille. Donc, Ganesh est le fils de Shiva, donc aussi une divinité très, très liée au yoga, et de Parvati. Et Ganesh a un frère qui s'appelle Kumara ou Skanda. Et donc, un jour, il y a plusieurs versions de cette histoire, mais moi, j'aime bien la version qui dit qu'un jour, il y avait Shiva et Parvati qui mangeaient le fruit de la connaissance. Ils étaient allongés, ils étaient en train de la manger, et donc du coup, leurs enfants arrivent, Ganesh et Kumara, et ils demandent à leurs parents de goûter aussi à ce fruit de la connaissance. Mais bon, le fruit de la connaissance, il faut le mériter, donc ils ne pouvaient pas tout simplement leur donner un petit bout. Du coup, ils ont décidé de créer un concours entre eux. Et la rivalité en plus entre frères et sœurs ou des frères, ça marche très très bien. Et donc du coup, ils vont leur dire, ok, très bien, mais si vous voulez goûter à ce fruit de la connaissance, il va falloir faire le tour 3 fois de l'univers. Et le premier à finir ces 3 tours aura du coup droit à ce fruit. Ok, donc Kumara... Et quelqu'un de très énergique, il a vraiment la pêche tout le temps. Et lui, il a un paon comme monture, il a un peacock. Donc, à peine on lui avait dit qu'il fallait faire le 3 tours du monde, de l'univers, il est parti sur son paon et il a commencé à faire le tour, mais vraiment à une vitesse mais incroyable. Ganesh, de l'autre côté, on a Ganesh qui est complètement différent. Donc voilà, la petite tête d'éléphant, il est un petit peu plus lent dans ses mouvements. Et en plus, sa monture, c'est un petit rat. Donc Ganesh dit, bon, c'est déjà un petit peu perdu à l'avance. Donc, je vais réfléchir d'abord à la question avant de me lancer. Et donc, du coup, à ce moment-là, il a une idée et il commence à faire le tour. Il commence à faire le tour de ses parents, de Shiva et de Parvati. Il le fait 3 fois. Et une fois qu'il ait fait ces 3 tours, il dit voilà, j'ai fait mes 3 tours autour de l'univers. Et donc du coup, ses parents très s'amusaient, ils se disent pourquoi ? Si, explique-nous. Et donc Ganesh leur explique que Parvati, qui est la manifestation de toutes choses, elle est une partie de l'univers, Shiva qui est la conscience de toutes choses, est l'autre partie de l'univers, et les deux ensemble pour lui, c'est vraiment l'univers entier. C'est ses parents. Lui n'a pas besoin justement de parcourir l'univers entier pour faire le tour de son univers à lui. Il suffit qu'il soit donc autour de ses parents. Et ses parents, du coup, sont extrêmement éblouis par cette sagesse de Ganesh. Et ils décident du coup de lui donner ce fruit de la connaissance. Et donc, au moment où Kumara, son frère, arrive, bah, Ganesh, il avait déjà tout mangé. Donc cette petite histoire, pourquoi je vous la raconte ? Parce que finalement, je pense que c'est une histoire qui peut très vite s'appliquer à tout ce qu'on vient de se dire. Parfois, on a l'impression qu'on est dans une course qui est une course de vitesse quand on lance un projet, quand on se lance dans une nouvelle chose. Alors que parfois, déjà, il suffit de se poser un petit peu pour penser et réfléchir à la question. Et d'autre part, ce n'est pas donc nos atouts... Ce n'est pas toujours les mêmes atouts qui vont essayer de... qui vont nous faire gagner, nos chemins, enfin, la course de notre chemin. Je pense que quelque chose qui est extrêmement beau avec Ganesh, c'est qu'il sait justement jouer avec ses atouts. Lui, il est très sage et donc il sait les utiliser pour arriver à ses fins, pour réussir et Kumara, par ailleurs, c'est quelqu'un de très bien aussi, hein, parce que lui, il est devenu du coup chef des armées, des divinités. Donc, ça ne veut pas dire que les Kumaras sont méchants ou quoi, mais chacun joue un petit peu avec ses satsus. Et il ne faut pas oublier que même si on est un peu atypique, il y a quand même moyen d'arriver à ce fruit de la connaissance, ce fruit de la réussite, si vous voulez. Donc, voilà pourquoi j'aime bien cette petite histoire.
C'est merveilleux, j'adore. Merci, Laura. De nous avoir confié cette petite histoire pour conclure cette interview. C'est fabuleux. En tout cas, tu es vraiment pétillante. Merci pour tout ce que tu nous as confié aujourd'hui. Merci pour toutes ces histoires. Merci de nous avoir montré que c'était possible. Merci pour ton authenticité. Merci pour les retours que tu m'as fait aussi sur le podcast, sur la formation du Yogi Challenge Pack. Donc vraiment un grand merci à toi pour ta générosité. J'ai passé un excellent moment et j'espère que cet épisode aura aussi plu à mes auditeurs, mais j'en suis convaincue. Je te vraiment mille merci. Merci Laura, mille merci à toi.
Merci, je suis toute rouge. Merci Cécile.
C'est pas grave, on ne voit pas.
C'est vrai.
On ne voit pas. Bah écoute, je te souhaite en tout cas, ton challenge se termine à la fin de semaine. J'imagine qu'il y a un petit lancement derrière, donc je te souhaite beaucoup de succès, plein de réussite et puis je pense qu'on te retrouvera très bientôt.
Merci
à bientôt
beaucoup.
Laura.
À bientôt.
Bye bye.
Bye bye.
Si toi aussi, comme Laura, tu veux lancer ton challenge de yoga en ligne pour développer ton audience, tu peux retrouver la formation Yogi Challenge Pack dans les notes de cet épisode ou directement dans ma bio Instagram sur mon compte @yogipiscoaching. Tu retrouveras également dans les notes de cet épisode tous les liens pour retrouver Laura sur son site, retrouver ses cours et ses programmes, sa chaîne YouTube ou encore son compte Instagram. Pense à repartager l'épisode et à nous taguer si tu as passé un bon moment avec nous. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.